Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, jour 1 après le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et un pays, la Grande-Bretagne, encore sonné par la disparition de son monarque adoré. Elisabeth II, la doyenne des têtes couronnées en Europe, ses tenues, sa retenue légendaire et les fresques familiales qui rythment le quotidien des Anglais depuis près de 70 ans. Marie Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Londres. La disparition d'Elisabeth II intervient dans un moment particulièrement difficile pour le Royaume-Uni, en prise avec un contexte social explosif, avec des factures d'électricité qui s'envolent. Et pourtant, la mort de la reine semble avoir mis le pays en pause.
Même des grèves qui avaient été confirmées il y a encore quelques jours sont annulées, la grève des cheminots et les grèves des postiers. On sait aussi qu'il y a certains endroits, certains lieux de travail, des chantiers de construction qui ont décidé de respecter des minutes de silence. Donc les Britanniques en général ont décidé de marquer le coup d'une manière ou d'une autre de ce décès et d'oublier en tout cas pour quelques heures, les difficultés qu'il traverse avec la question du coût de la vie.
La tristesse est palpable aujourd'hui des Anglais ?
Ça se voit partout, en fait, quoi qu'on fasse, que ce soit la une des journaux qui est spécialement noire, que ce soit quand on allume la BBC avec tous les journalistes qui sont habillés de noir, où il y a même certains magasins qui sont fermés. Le grand magasin Selfridges, par exemple, a décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui en hommage à la reine. Et on voit aussi dans le centre de Londres que les drapeaux sont à mi-mât. Quand on passe devant une boîte aux lettres, on est obligé de remarquer qu'il y a le monogramme de la reine Elisabeth II, le E2R, qui sera peut-être possiblement remplacé rapidement avec celui que Charles III se choisira. Quand on paye quelque chose, on paye avec la monnaie où il y a le visage de la reine. Tout ça au fur et à mesure, pas immédiatement parce que ça coûterait trop cher, mais au fur et à mesure sera remplacé par la figure du nouveau monarque. Donc même les Britanniques qui n'étaient pas seulement monarchistes, qui n'avaient pas d'affection particulière pour la reine, ne peuvent pas ne pas rencontrer ce moment historique dans leur quotidien aujourd'hui.
Elisabeth II, une figure historique, sans aucun doute. Je vous propose de l'écouter ici en 2004, lors du centenaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Une reine parfaitement francophone, vous allez l'entendre.
Nous ne pouvons pas laisser les tensions politiques du moment, quels que soient les ressentiments qu'elles suscitent, nous diviser dans la durée. Nous savons bien que ni les deux grandes nations que nous sommes, ni l'Europe, ni l'Alliance Atlantique ne peuvent se permettre de se désolidariser ou de se quereller face aux menaces auxquelles nous sommes tous confrontés sur le plan de notre sécurité et de notre prospérité. Bien sûr, nous ne serons jamais d'accord sur tout, mais la vie manquerait de sel et le reste du monde y perdrait si nous ne nous accordions pas de temps en temps de loisir d'endosser nos caricatures nationales.
La vie manquera sans doute un peu de sel désormais. Mais Marie Billon, les regards se tournent maintenant vers Charles III. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit plus interventionniste que sa mère, comme certains semblent le craindre ?
Alors, apparemment, le nouveau roi Charles III est assez agacé quand les gens ne comprennent pas qu'il est très conscient qu'être prince de Galles et roi d'Angleterre est très différent. Il a dit il y a quelque temps dans une interview qu'il n'était pas aussi stupide, ses mots, pas les miens, pour croire qu'il ne devrait pas changer son attitude et sa manière de faire une fois qu'il aurait accédé au trône. Donc, les Britanniques ont peur, effectivement, d'avoir un roi qui serait opinionné et il y avait eu, effectivement, des discussions pour laisser peut-être un petit peu plus de liberté au monarque pour donner des opinions sur certains sujets, comme l'environnement ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui apparemment a été largement mis de côté. On s'attend à ce que le roi Charles III soit un monarque aussi lisse que possible et c'est très bien qu'il aura un règne qui déjà est à l'ombre de celui de sa mère, qui a été rempli de succès et qui a été très long. Le sien sera certainement beaucoup plus court que celui de sa mère. Il voudra certainement marquer son temps dès que possible et surtout le mieux possible.
Merci Marie Billon, en direct de Londres. C'est une élection cruciale pour les Suédois, mais aussi pour l'Europe. Dimanche, la Suède va élire pour 4 ans ses 349 députés. Mais l'issue de ce scrutin s'annonce d'ores et déjà très serrée. Le centre gauche et la droite libérale conservatrice sont au coude à coude dans les sondages. Et pour la première fois, le parti d'extrême droite, les démocrates suédois, pourrait devenir le premier parti d'opposition avec une banalisation des thématiques d'extrême droite. Anne-Françoise Hiver, bonjour, vous êtes notre correspondante en Suède. Vu de l'étranger, on a une image d'un pays paisible avec peu de criminalité. Et pourtant, c'est le thème de l'insécurité qui a dominé cette campagne.
En effet, avec le débat sur l'immigration, il a même complètement éclipsé presque tous les autres sujets, à l'exception toutefois de la crise énergétique. Il y a une raison à cela, si effectivement la plupart des autres formes de criminalité restent à des niveaux relativement bas par rapport aux autres pays européens, ce n'est pas le cas des homicides par arme à feu, avec une moyenne de 4 morts pour 1 million d'habitants contre 1,6 dans le reste de l'Europe. En cause, une guerre des gangs qui se dispute le marché de la drogue. Limitée aux grandes villes d'abord, elle s'est propagée dans tout le pays et elle génère un sentiment d'insécurité au sein de la population. Ces dernières années, le gouvernement social-démocrate a durci les peines pour une cinquantaine de crimes et de délits, ouvert deux nouvelles écoles de police, augmenté les effectifs des forces de l'ordre. Mais Manne Gerel, criminologue, regrette que ces mesures n'aient pas été prises plus tôt.
Au début, on n'a pas pris le problème suffisamment au sérieux et on a voulu le minimiser. On a fait comme s'il n'existait pas. Et il n'a fait que s'amplifier avec le temps. Les cinq dernières années, on a commencé à réagir et on a essayé de faire beaucoup de choses. Mais on est arrivé tellement loin que c'est dur de l'arrêter car ces structures sont devenues très puissantes.
Alors les partis font de la surenchère, les conservateurs veulent appliquer les lois antiterroristes aux membres de ces bandes rivales, tandis que les démocrates de Suède, l'extrême droite, accusent d'immigration et veulent durcir encore les conditions d'accueil pour limiter au maximum les entrées dans le pays tout en multipliant les retours à la frontière.
Ce sont des thèmes chers à la droite conservatrice et à l'extrême droite. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur les résultats de l'élection ?
Pour le moment, c'est très difficile de le dire. Personne n'ose faire de pronostic. Une chose est sûre, l'extrême droite a fait une excellente campagne et elle se trouve dans une position complètement inédite avant ces élections, car les conservateurs et les chrétiens démocrates ont compris qu'ils ne reviendraient jamais au pouvoir sans son soutien au Parlement. Depuis les dernières élections, donc, il y a 4 ans, leur attitude à l'égard des démocrates de Suède, les SD, a radicalement changé. Rejoints par les libéraux, ils sont prêts à faire d'eux une force d'appoint au Parlement.
Alors, qui sont ces démocrates de Suède ?
C'est une formation qui a été fondée en 1988 par d'anciens fascistes. Elle défend un programme ultranationaliste et radical conservateur. Dirigé par Jimmie Åkesson, le SD est entré au Parlement en 2010. Régulièrement encore, des scandales éclatent et révèlent les liens de certains élus locaux avec la mouvance néo-nazie ou leur prise de position raciste sur les réseaux sociaux. Peu importe, les SD ont réussi leur dédiabolisation et leur influence est déjà palpable, selon Jens Rudgren, professeur de sociologie à Stockholm.
D'une certaine manière, beaucoup des partis se sont adaptés aux positions des SD. Pas seulement les libéraux, les conservateurs ou les chrétiens-démocrates, mais aussi les sociaux-démocrates, dont la conception de la politique migratoire est bien plus restrictive qu'avant.
En cas de victoire de la droite, les démocrates de Suède ne devraient pas intégrer le gouvernement, mais ils ont déjà fait savoir qu'ils monnaieraient cher leur soutien, avec pour priorité réduire au maximum l'immigration, accélérer les retours et imposer une politique culturelle conservatrice. Rappelons que le parti est eurosceptique et climato-sceptique.
Et l'environnement, justement, dans cette campagne ?
Eh bien, on peut dire qu'il est quasiment absent, ce qui va encore une fois à l'encontre de l'image qu'on a souvent de la Suède à l'étranger comme pionnière de la mobilisation pour l'environnement. Chercheuse à l'université de Södertörn, Maria Wollrat Söderberg explique.
En Suède, beaucoup pensent que le changement climatique ne nous affecte pas. C'est un pays assez froid. Les gens se disent que ce n'est pas si mal qu'il fasse un peu plus chaud. On oublie vite. Mais nous avons aussi eu des incendies et la sécheresse.
C'était en 2018, juste avant les dernières élections. 25 000 hectares de forêt étaient partis en fumée. Greta Thunberg avait commencé sa grève scolaire devant le Parlement suédois avant de lancer son mouvement Fridays for Future, les vendredis pour le futur. En moyenne, les Suédois émettent un peu plus de 9 tonnes de CO2 par an et par habitant. Mais dans la campagne électorale, le débat s'est concentré sur les prix de l'électricité et la nécessité ou non de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. La droite et l'extrême droite en ont fait une de leurs principales promesses de campagne.
Autre contradiction, le Parti vert lui est donné à 5% dans les sondages, à peine plus que le score nécessaire pour entrer au Parlement. Pourtant, les ONG et les chercheurs estiment tous que ce sont les Verts qui ont le meilleur programme pour faire face à l'urgence climatique.
Oui, mais après 7 ans au gouvernement avec les sociaux-démocrates, les électeurs, les jeunes notamment, le boudent. Ils lui reprochent son pragmatisme et son manque de radicalité. Ancienne ministre de l'Environnement et ex-porte-parole du parti, Isabella Lövin, s'en inquiète.
Nous voyons que nous n'avons pas de très bons résultats chez les jeunes électeurs qui votent pour la première fois. Et je pense malheureusement que c'est lié au fait que les jeunes qui ont suivi le mouvement Friday for Future n'ont aucune confiance dans la politique.
Récemment, près de 2000 chercheurs ont signé une tribune pour exhorter les politiciens à prendre la crise climatique au sérieux. Plus de 200 responsables d'entreprises leur ont apporté leur soutien et demandent aux politiciens d'arrêter de, je cite, « freiner la transition ». Transition écologique.
Merci Anne-Françoise Hiver en direct de Stockholm. Plus au sud de l'Europe, une autre campagne électorale bat son plein. L'Italie élira ses députés le 25 septembre, mais là aussi, on assiste à un rapprochement entre les partis de droite et d'extrême droite, avec une droite italienne qui a mis au cœur de ses thèmes de campagne la sécurité et l'immigration. Les détails avec Cécile Debarge.
C'est devenu une habitude pour les chefs de file des partis d'extrême droite italiens en pleine campagne électorale tirer à boulets rouges sur les migrants. Terrain de prédilection, l'île de Lampedusa où les arrivées de bateaux ont été nombreuses cet été. Le 31 août, le chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, s'y rend pour une visite surprise du hotspot. C'est là que sont accueillies les personnes à peine arrivées avant d'être envoyées dans des centres d'accueil à travers le pays. Ce jour-là, le centre d'accueil est bondé. Les migrants sont plus de 1000 pour 300 places prévues. Ce n'est pas de l'accueil, c'est le chaos, tonne l'ancien ministre de l'Intérieur qui promet de remettre en vigueur les décrets sécurité s'il est élu. La leader du parti Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, demande elle un blocus naval en Méditerranée. Elle souhaite l'ouverture de centres de filtrage directement sur le territoire nord-africain pour identifier en amont les demandeurs d'asile. Giorgia Meloni, qui n'a pas hésité à partager sur Twitter une vidéo très choquante au début de sa campagne pour enfoncer le clou sur les questions sécuritaires. On y voit une femme se faire violer. La scène est filmée par un témoin, les visages et les corps sont floutés. Le violeur est un demandeur d'asile de 27 ans. La vidéo a fini par être retirée par Twitter et Facebook en raison de son contenu choquant. La candidate de Fratelli d'Italia avait entre-temps promis à ses électeurs d'arrêter les arrivées de migrants. Cette semaine, c'est une autre vidéo qui fait scandale. Un conseiller municipal de la Ligue, dans la ville de Florence, se filme en compagnie d'une femme rome. Si vous ne voulez plus la voir, votez pour la Ligue, s'amuse-t-il tout sourire, lunettes de soleil et chemise ouverte. L'attitude est on ne peut plus décomplexée, à l'image de la campagne menée jusqu'à présent sur les questions d'immigration et de sécurité par les partis d'extrême droite italiens.
Et avant de se quitter, on retourne en Suède avec un livre qui a connu un succès retentissant dans le pays. Stöld signifie le vol en suédois. L'ouvrage qui raconte le vol de rennes, l'une des discriminations classiques dont sont victimes les Samis, jette une lumière crue sur les conditions de vie de ce peuple nomade réparti aux confins de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Russie. Le roman vient de paraître en français chez Robert Laffont. Sébastien Gédor a rencontré l'auteur Anne-Hélène Lestedius lors de son passage à Paris.
Journaliste à l'origine, auteur de livres à succès pour la jeunesse, Anne-Hélène Lestadius portait ce roman en elle depuis longtemps. Les personnages d'Elsa, la jeune éleveuse de rennes harcelée, ou de Robert, son bourreau raciste, ces personnages, Anne-Hélène Lestadius, les connaît intimement.
Är det för att du har träffat renskötare Oui, effectivement. J'ai des origines sami, puisque ma mère vient d'une famille d'éleveurs de rennes. J'ai des cousins, des proches qui sont éleveurs de rennes et je les ai suivis toute ma vie. Il a été très difficile pour moi, il est très difficile pour moi de voir leur souffrance. Non seulement la xénophobie, le racisme que subissent les samis au quotidien, mais aussi le changement climatique, les exploitations minières et sylvicoles. En fait, les samis sont frappés par une multitude de fléaux et j'ai véritablement voulu témoigner de cela.
Travail forcé, conversion au christianisme, effacement de leur culture. Au fil des siècles, les samis en Suède ont perdu le droit de posséder des terres. Mais ils en ont conservé le droit à l'usage. Les samis peuvent aujourd'hui, en théorie, faire paître leurs rennes sur des terrains qui ne sont plus à eux, ce qui provoque de nombreux conflits. Anne-Hélène Lestadius.
Je dirais que oui, bien sûr, l'État est responsable de la plupart des maux qui touchent le peuple sami. L'État autorise la prospection minière sur les terres où les rennes pâturent. Les samis ont de moins en moins de droits, de moins en moins de terres. L'État est donc responsable au premier chef.
Jag skulle säga att staten är ju den som ska anklagas.
Stöld d'Anne-Hélène Lestadius n'est pas une thèse. Comme une saga nordique des temps modernes, le roman raconte l'histoire d'une famille, plusieurs générations de samis, plusieurs attitudes face aux discriminations, la résignation, la révolte ou la fuite dans la mort, le suicide, un fléau tabou dans le Grand Nord suédois.
Ja, tyvärr är det här någonting som vi alla samer känner till.
Oui, hélas, c'est quelque chose que nous, les Samis, connaissons bien. Nous avons tous quelqu'un dans notre famille, parmi nos proches, qui s'est suicidé. Et l'une des raisons qui explique pour quoi j'ai écrit ce livre, c'est qu'il y a 7 ans, 2 de mes cousins se sont suicidés. Ils avaient tous les deux autour de 20 ans. C'est un immense traumatisme, évidemment. La maladie mentale, c'est quelque chose qui touche les Samis et c'est quelque chose dont ils ne parlent pas. Et les silences sont extrêmement dangereux.
Det finns så mycket tystnader som är farliga.
Avec le succès du roman, en Suède, la police a commencé à s'intéresser davantage au massacre des rennes. Mais le qualificatif retenu reste le plus souvent celui de vol, stöld, et non pas par exemple celui que l'on pourrait traduire par crime de haine. Ce qui est sûr en revanche, c'est que de plus en plus de jeunes samis prennent la parole pour témoigner, raconter leurs propres histoires, à l'image d'Anne-Hélène Lestadius.
Jag tror att sociala medier har spelat en stor roll.
Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Les Samis peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qui leur arrive, écrire sur leur compte Instagram, Facebook ou Twitter que leurs rennes ont été tuées ou qu'ils ne peuvent pas obtenir un enseignement en langue sami pour leurs enfants. Donc les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial. Avant, nous étions obligés d'attendre que les journalistes s'intéressent à nous. À présent, nous avons pu reprendre le pouvoir.
Men nu kan vi ta makten i egna händer på ett sätt.
Faire entendre sa voix, faire entendre la langue du peuple sami. Dans le roman, Stöld, plusieurs mots, plusieurs expressions sont conservés en version originale avec un glossaire à la fin du livre. L'auteur Anne-Hélène Lestadius y tenait beaucoup.
La langue est très importante pour la survie de la culture sami. Dans tous mes livres, j'ai toujours introduit des mots, des expressions en sami. D'abord pour l'identification, pour que les samis qui lisent mes livres puissent se reconnaître. Et aussi pour que les Suédois, et maintenant les Français et les autres lecteurs du monde, voient cette langue.
Att man ska få se det samiska språket.
Stöld d'Anne-Hélène Lestadius a reçu le prix du livre de l'année en Suède. Netflix vient d'acheter les droits pour une adaptation à la télévision. Début du tournage Au-delà du cercle polaire au printemps 2023.
C'était Anne-Hélène Lestadius avec une traduction assurée par Anna Postel. Accent d'Europe à la réalisation Donatien Cahu. Retrouvez-nous dès lundi ou à toute heure sur notre site rfi.fr et en podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À lundi.